Bien, mais bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi donc un grand plaisir d'animer cette soirée, de présenter. Bon, mais nous sommes nombreux à bien connaître Cécile, qui a écrit un magnifique livre, qui est un livre érudit, qui traite donc des francs-maçons avec un bilan comparatif entre la France, la Grande-Bretagne et les USA. Le livre s'intitule donc La Longue Marche, et j'imagine qu'elle va nous expliquer un peu pourquoi La Longue Marche, qui fait référence bien entendu à un moment historique de l'histoire donc de l'histoire du XXe siècle, qui était donc ce parcours qu'a mené Mao Zedong pour se retirer des troupes qui le persécutaient et qui est revenu après par la grande porte pour prendre le pouvoir donc en Chine. Alors, est-ce que la grande marche, la longue marche, donc, veut dire que c'est les francs-maçons qui se sont écartés durant 2 siècles de l'histoire de la maçonnerie en général et qui aujourd'hui donc vont nous expliquer que les frères sont des sœurs comme les autres? Voilà, c'est un peu ça, j'imagine, l'histoire de ce livre, moi, enfin, d'après ce que j'en ai retenu. Donc, je rappelle que Cécile donc, est professeure émérite de l'Université de Bordeaux, qu'elle a dirigé de nombreuses thèses sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Elle a beaucoup travaillé donc, sur la maçonnerie anglo-saxonne et elle est également donc, directrice de collection du monde maçonnique. Elle a écrit donc, avec des auteurs célèbres pour ceux qui connaissent l'histoire de la maçonnerie ou qui la pratiquent. Comme Charles Porcet et notre regretté frère, dont j'ai le nom qui vient de m'échapper,
Ludovic Marcos.
Ludovic Marcos, voilà, qui est décédé il y a peu. Ils ont écrit donc quelques ouvrages ensemble. Ensuite, je viens d'apprendre ce soir qu'elle a également écrit un ouvrage conjointement avec un ami catalan qui est là ce soir, qui nous a rejoint pour une autre conférence qui traite donc de l'époque des Lumières en Europe et en Amérique, et aux colonies, ce qu'on appelait les colonies autrefois. Donc, Cécile est une auteure prolixe sur la maçonnerie et avec toujours beaucoup d'intérêt à la lire. Donc, Cécile, je pense qu'on va organiser donc, ce colloque, donc cette conférence en deux parties, plus ou moins une partie historique et une partie actuelle. Donc, la partie historique qui vous retrouverez en achetant ce livre, que j'espère nombreux à le faire, vous allez être nombreux à le faire sûrement. La partie historique donc démarre à peu près au début des années 1710-1720. Et la maçonnerie féminine, où la participation des femmes à la maçonnerie existait déjà à ce moment-là. Donc, Cécile, je te laisse le soin de nous expliquer ton travail exceptionnel et extraordinaire et intéressant.
Bon, mais je remercie Ernest, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France, donc il connaît bien la franc-maçonnerie, lui aussi. Et je remercie la librairie Mola qui m'a invitée ce soir. Voilà. Alors, oui, quand tu dis, Ernest, que la maçonnerie date de 1723, disons 1717, bon, il y a tout un débat maintenant, 1717, 1721, mais bon, ce n'est peut-être pas l'objet du débat ce soir. Elle date surtout des Lumières, on va dire. Voilà. C'est vraiment la fille des Lumières. Puisqu'elle va naître justement parce que dans le sillage de la Glorieuse Révolution, la tolérance religieuse et politique sont, disons, accrues, sinon parfaites. Mais bien sûr, les Lumières ont aussi leurs limites. Et l'une de ces limites, c'est justement que les femmes sont encore très largement exclues de la vie publique. Et l'autre limite, c'est que les athées sont exclus de la franc-maçonnerie. C'est ce qui est dit en 1723. Donc, dans les faits, en Angleterre, on ne va pas trouver de femmes en franc-maçonnerie, sauf cette Irlandaise du tout début du siècle, alors 1715, qui est devenue légendaire et qui était justement une Française, Lady Aldwaf Saint-Léger, qui aurait été initiée dans un château d'Irlande. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. En revanche, en France, on va trouver des loges d'adoption. Ce sont des loges qui sont spécifiquement installé par des frères du Grand Orient de France. À l'époque, ce n'était pas le Grand Orient, c'était la Grande Loge. Attention, la Grande Loge qui n'a rien à voir avec la Grande Loge de France. C'était donc cette première Grande Loge. Et ces loges, donc, il y avait des loges parisiennes comme la Candeur, parmi les plus prestigieuses, qui, bien sûr, regroupaient beaucoup d'aristocrates, mais qui, tout de même, participaient à ce mouvement des Lumières. Puisqu'on trouve des femmes qui sont relativement actives, qui réfléchissent, qui vont participer à beaucoup d'œuvres caritatives, mais pas uniquement. On va trouver la citoyenne Bathilde Vérité, par exemple, qui va soutenir la Révolution française. Mais il y a aussi la princesse de Lamballe, bon, qui va mal finir pendant la Révolution française, c'est vrai. Ce sont des femmes qui vont, par exemple, organiser à un moment donné un concours à la loge de la Candeur pour savoir quel est le moyen le plus intelligent de venir en aide aux enfants abandonnés. Donc vous voyez, c'est une réflexion, c'est-à-dire que c'est pas uniquement leur donner de l'argent, c'est comment est-ce qu'il serait souhaitable d'éduquer ces enfants. Voilà, c'est déjà une première réflexion. Et puis ce sont des femmes aussi qui se considèrent comme des citoyennes du monde. À un moment donné, elles signent une obligation, elles disent qu'elles sont citoyennes de l'univers maçonnique. Voilà. Alors, ce phénomène n'existe pas du tout en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, au XIXe siècle, on va trouver une maçonnerie qui n'est pas une véritable maçonnerie, qui s'appelle l'Étoile d'Orient, Eastern Star, qui est créée au XIXe siècle, donc dans les années 1830, par deux Américains, surtout, je crois, pour rassurer les épouses des frères quant à la bonne moralité de ces frères, pour les rassurer sur tout ce qui se passe dans les loges. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que pour être membre de l'Eastern Star, il faut absolument être fille ou épouse ou sœur de franc-maçon. Donc, il faut avoir vraiment un lien de sang avec un franc-maçon. Donc, on n'accepte pas n'importe qui. Et là, de toute évidence, elles sont là pour promouvoir les œuvres charitables des frères. Voilà. Donc, c'est un esprit totalement différent. Et elles ne sont pas considérées comme des sœurs. Et encore aujourd'hui, l'Eastern Star existe, mais les membres de l'Eastern Star ne se disent pas sœurs. Voilà. Donc, c'est une différence quand même énorme. Il faut donc attendre réellement la fin du 19e siècle, le tout début du 20e, pour voir apparaître les premières obédiences mixtes et féminines. Alors, en France, mixte, bien sûr, on pense au droit humain qui a été créé conjointement par un homme et une femme, rappelons-le, Georges Martin et Maria de Rheim, en 1893. Et qui va très vite prendre une dimension internationale, puisque en 1902, ce droit humain va créer la première loge anglaise, qui là va s'appeler Human Duty. Alors, Human Duty, c'est le devoir, hein, c'est la notion de devoir, parce que c'est une femme qui s'appelle, une sœur qui s'appelle Annie Besant, qui est très inspirée par la théosophie, qui va être vraiment le moteur de cette loge en Angleterre, puis en Inde. Donc, c'est une coloration un petit peu différente, je dirais, du droit humain à la française et à l'américaine, puisqu'à la même époque, se crée dans les mines de Pennsylvanie, enfin, pas dans les mines, mais avec les mineurs de Pennsylvanie, la première loge aussi du droit humain, qui, elle, s'appelle bien « Human Rights », et pas Human Duty, avec Guazu et Muzzarelli, qui sont en fait des socialistes utopistes qui vivent donc aux États-Unis, qui sont français d'origine. Et là, c'est tout à fait différent. Alors, bon, je ne vous donne qu'un aperçu, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais quand même que ce droit humain en France est très attaché au progrès social, et que lorsqu'on étudie, comme je l'ai fait là, les premiers bulletins de 1895 et jusqu'au début du siècle, on s'aperçoit que les frères et les sœurs travaillent sur des réformes législatives. Voilà. Ils étudient en détail tout ce qu'il conviendrait de changer dans le code civil, dans le code pénal, pour contribuer à l'émancipation de la femme en matière de mariage, en matière de divorce. Et bon, dès 1912, on trouve aussi des positions pour le suffrage féminin. Ces sœurs et ses frères font partie d'associations qui sont très, très investies pour le suffrage féminin. Alors, ce ne sont pas les seuls, puisqu'on va trouver également une grande loge symbolique écossaise, que tout le monde a peut-être oubliée aujourd'hui, mais qui est quand même la grande loge symbolique qui a initié Louise Michel. Voilà. Et donc, Louise Michel, à la fin de sa vie, en a fait partie. Et dès le lendemain, elle prononçait une conférence en loge qui s'appelait « Le féminisme ». Et sa célèbre phrase, que je vous cite, « Le duel des sexes serait ridicule et odieux. Il n'y a pas la femme contre l'homme, il y a l'humanité. » Alors, un grand saut en avant, et je crois que je vais m'arrêter après pour ce petit récapitulatif historique. En 1945, se crée la première obédience féminine, spécifiquement féminine, qui à l'époque s'appelle l'Union maçonnique féminine de France, la future Grande Loge féminine de France, qui, elle, est héritée des loges d'adoption, mais les loges d'adoption nouvelle manière, c'est-à-dire celles qui ne dépendaient plus, donc qui ne dépendent pas du tout du Grand Orient de France, mais qui dépendaient de la Grande Loge de France. Donc la Grande Loge de France, hein, cette fois-ci, et jusqu'au moment où la Grande Loge de France les a encouragés, on va dire, à prendre leur indépendance, notamment parce que la Grande Loge de France essayait de se faire reconnaître un petit peu par les Anglais. Et donc là, c'est vrai que ça me ramène encore à ce débat fondamental, enfin, qui explique toute la différence d'attitude envers les femmes dans le monde. C'est que, encore une fois, en Angleterre et aux États-Unis, la Grande Loge Unie d'Angleterre et toutes les grandes loges américaines refuse d'initier des femmes et impose la croyance en Dieu. Donc, ce n'est pas étonnant. Alors, si vous voulez, la Grande Loge de France, à l'époque, avait tendance un petit peu à vouloir une reconnaissance de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et donc il ne fallait pas... ces femmes étaient devenues un peu encombrantes, il faut bien le dire. Bon. Alors, en Angleterre, à la même époque, donc, on a des Women Freemasons, qui ne s'appellent pas comme ça, d'ailleurs. Elles s'appellent... Honorable Fraternity of Ancient Freemasons, c'est-à-dire qu'au départ, donc, cette organisation qui est créée quand même en Angleterre en 1910, si je me souviens bien, enfin dans ces années-là, est mixte. Évidemment, elle n'est pas reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Mais à l'époque, paradoxalement, il y avait des épouses et de frères de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et il y avait, au début, quelques membres qui étaient à la fois membres de la Grande Loge Unie d'Angleterre et membres de cette obédience. Alors évidemment, la Grande Loge Unie d'Angleterre a vite fait le ménage, elle a imposé aux frères de faire un choix, et elle a redit très clairement qu'il n'était pas question d'avoir le moindre rapport avec une obédience qui initiait des femmes. Donc, la situation actuelle, aujourd'hui, ces Women Freemasons existent. Elles sont donc uniquement, c'est une obédience uniquement féminine qui n'est toujours pas reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, bien que certaines épouses de francs-maçons de la Grande Loge Unie d'Angleterre s'y trouvent. Voilà. Et donc, en fait, d'ailleurs, ça explique que ils étaient un petit peu évolués, parce qu'aujourd'hui, quand on visite les locaux, par exemple, du temple maçonnique, on vous dit que, non, bien sûr, la Grande Loge Unie d'Angleterre n'initie pas de femmes, mais qu'il y a des sœurs dans une obédience, donc tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc voilà. Et alors, c'est, évidemment, vous voyez, il y a une petite évolution quand même, on va dire. Et aux USA, bien sûr, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de maçonnerie mixte reconnue ou féminine reconnue par les frères américains. Il y a des loges du droit humain, quelques-unes. Il y a quelques loges de la Grande Loge Féminine de Belgique, mais aucune n'est reconnue par voilà, par les frères américains. Je m'aperçois que donc déjà j'aborde un peu le domaine contemporain.
Ok, merci donc pour cette première partie historique qui est très intéressante. Et si je peux noter, c'est que l'évolution de la maçonnerie, donc enfin, ou de la participation, de l'initiation des femmes à la maçonnerie, est quand même liée au contexte donc politique et religieux de l'époque. La première partie donc de la maçonnerie, donc c'était l'éloge d'adoption surtout. Et il faut arriver donc à la fin du 19e siècle pour commencer à avoir des obédiences mixtes, et en particulier donc le droit humain, enfin je parle au moins en France. Quoi. La maçonnerie féminine en tant que telle en France n'existe pas, puisqu'on a fait un bond qui en avant où on a supprimé les loges d'adoption et on retrouve donc les loges mixtes. Et après, donc la maçonnerie féminine est arrivée bien après. grâce ou à partir de la Grande Loge de France. Quoi. Mm-hmm.
Après la longue marche.
Après la longue marche, la retirada et la remontada, comme voilà. Disent certains dans certains milieux. Donc cette maçonnerie féminine, alors la mixte, bon, elle a évolué, on la connaît. Elle a tenté de s'implanter dans les pays anglo-saxons, puisque tu viens de dire, donc, de rappeler qu'il y a du droit humain aux États-Unis, il y en a très peu en Angleterre. La maçonnerie féminine, donc, alors moi je me pose toujours la question, on parle de la mixité, et comme je sais, juste c'est un aparté, comme je sais que tu le dis sur ton livre que tu as été initié à la Grande Loge féminine de France, il se trouve que la Grande Loge féminine de France est une obédience exclusivement féminine, quoi. Donc on a reproché, alors moi là c'est l'ancien conseiller de l'ordre du Grand Orient de France, qui a les sentiments et les émotions qui remontent. On a reproché souvent que le Grand Orient de France était une obédience libérale et qui refusait jusqu'à en 2010, donc, à initier les femmes. Comment, mais alors juste on a 3 minutes, quoi. Comment expliques-tu que la Grande Loge féminine de France ne veut pas initier les frères ?
Bon, alors, un peu plus de 3 minutes, peut-être, mais... C'est une très bonne question.
Merci.
Je crois que la Grande Loge féminine de France a toujours dit dans ses statuts qu'elle était féminine. Et c'est vrai que quand elle s'est constituée, il faut bien reconnaître que les femmes n'avaient pas le choix. Elles avaient le choix entre le droit humain, qui était une obédience mixte, et à l'époque, la Grande Loge féminine de France. Donc c'était dans ses statuts. Alors il faudrait réellement qu'elle change ses statuts pour admettre des hommes. Pourquoi pas, hein ? Elle va peut-être le faire, mais ça, je ne peux pas vous dire quand. Mais tandis que le Grand Orient de France n'a jamais eu dans ses statuts la moindre indication disant que c'était une obédience exclusivement masculine. Et c'est comme ça, effectivement, qu'en 2010, les choses ont pu évoluer.
Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma dernière année et que donc été favorable à l'initiation des femmes au Grand Orient de France.
Bravo, c'est bien pour ça que...
Et à l'affiliation des sœurs au Grand Orient de France. Bon, on peut aussi, il ne faut pas oublier que pour ceux qui pratiquent d'autres rites, je ne sais pas s'il y en a ici, les constitutions d'Anderson, qui se réfèrent aux constitutions d'Anderson, donc comme l'a dit Cécile tout à l'heure, refusent donc l'initiation des esclaves, des athées et des femmes. Donc tout ça, c'est dans le même sac, et les constitutions d'Anderson, pour ceux qui respectent leur rite, eh bien, ils sont obligés de s'en tenir là. Tant pis pour eux, quoi, ils perdent donc la moitié de l'humanité sur leur colonne. Donc maintenant, nous sommes arrivés donc à la période moderne. Alors la grande obédience mixte maintenant, devenue mixte par la force, par les faits, quoi, par son règlement intérieur qui ne met plus en exergue le genre pour être initié, c'est le Grand Orient de France. Ensuite, il y a d'autres obédiences donc, comme la Grande Loge mixte de France. La Grande Loge mixte universelle, pardon. Mm-hmm. Il y a des loges donc Memphis Mizraïm qui sont exclusivement féminines. Il y a donc tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mélanges, chacun a son rite, son obédience, etc. Certains initient et affilient des sœurs, d'autres, y compris des loges du Grand Orient de France, refusent de recevoir des sœurs au cours de leurs travaux. Donc tout ça, on est dans une espèce pour l'instant de confusion, qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas trop comment se situer.
Oui.
Donc, alors, ma question, puisqu'il va y en avoir une à la sortie, c'est que est-ce que le sens de l'histoire va faire qu'à un moment donné, l'ensemble de la maçonnerie, qu'elle soit régulière, pas régulière, etc., deviendra donc un terrain sur lequel l'ensemble des hommes et des femmes de bonne volonté seront donc accueillis en leur sein, d'après toi?
Écoute, l'utopie maçonnique, c'est très beau.
Voilà.
Donc, on peut y tendre. Alors, je dirais plus sérieusement que... Enfin, c'est pas que je sois pas sérieuse, là, mais... Bon, on peut rêver, hein, on peut toujours rêver. Je crois qu'il faudrait voir peut-être le bon côté des choses. C'est-à-dire que le paysage maçonnique est très varié en France, et c'est tant mieux. Parce que, justement, la grande différence avec l'Angleterre ou les États-Unis... c'est qu'on ne reconnaît qu'une seule obédience par État ou par pays. Une seule obédience par État aux États-Unis, une seule obédience en Grande-Bretagne. Et Et c'est, enfin, en Angleterre et en Écosse. Et en Irlande. Et c'est au nom de ça que la Grande Loge Unie d'Angleterre s'arroge le droit de distribuer des bons points et de dire qui est régulier ou qui n'est pas régulier. Donc, c'est quand même un petit peu, bien que, bon, écoutez, j'aime beaucoup les Anglais, mais enfin, c'est un impérialisme britannique, quand même, qui a subsisté au niveau, on va dire, de la maçonnerie, hein, puisqu'il distribue comme ça des labels de régularité. Et c'est au nom, d'ailleurs, c'est en raison de cette attitude que, pendant très, très longtemps, les grandes loges noires n'ont pas été reconnues, parce qu'on disait, ah, il y en a déjà une. Il y en a déjà une en Alabama, donc on n'en a pas besoin de deux. Voilà. Et donc, dans la pratique, les grandes loges noires n'étaient pas reconnues, et c'est encore le cas dans 9 États du Sud aux États-Unis. Voilà. Alors qu'en France, il y a toujours eu une grande diversité, et aucune obédience ne s'est arrogé le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître les autres. Alors, sauf peut-être, effectivement, mais un petit peu différent, c'est la Grande Loge nationale française qui, justement, est la seule à être reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui donc elle-même va dire, eh bien, je ne reconnais pas telle ou telle obédience. Mais en ce qui concerne quand même le paysage maçonnique français, à l'exception de la GLNF, toutes les obédiences, enfin presque, on va dire toutes les grandes obédiences, sans entrer dans les détails, ont des relations diplomatiques, se reconnaissent. Alors, je ne vais pas dire que les visites sont réciproques, puisque, bien sûr, la Grande Loge de France, à ma connaissance, ne reçoit pas encore les sœurs. Bon, le Grand Orient de France reçoit les sœurs, sauf peut-être encore dans quelques petites loges, comme le village d'Astérix, mais ça va passer, hein, ça va passer, voilà. Sinon, que dire d'autre? Bon, mais je crois, encore une fois, donc vous voyez la différence d'approche entre cette franc-maçonnerie dite régulière, donc qui impose la croyance en Dieu et qui refuse les femmes, et cette maçonnerie libérale, donc à la française, quand je dis à la française, c'est parce que c'est le Grand Orient de France qui, en 1877, a le premier imposé la liberté absolue de conscience. Mais c'est pareil dans beaucoup d'États, dans beaucoup d'autres pays, en Belgique, en Italie. Bon, il y a des courants de la franc-maçonnerie libérale. Donc, je veux dire, il est, entre ces deux grandes tendances, bien sûr, ce sont ces deux grandes tendances qui déterminent, en fait, l'attitude envers les femmes. Voilà, l'attitude envers les femmes en franc-maçonnerie. Alors, cela dit, bon, les choses ont quand même un petit peu évolué, même en Angleterre, comme je le disais, puisqu'en Angleterre, maintenant, on dit, ah, oui, elles sont là. Nous savons qu'elles existent, très bien, mais nous ne les reconnaissons pas. Alors qu'il y a quelques années, on disait, elles ne sont pas initiables parce qu'elles sont femmes. Donc, vous voyez, on évolue un petit peu. Et aux États-Unis aussi, c'est à peu près la même chose, surtout dans certains États. En Californie, j'ai même été invitée en tant que sœur du Grand Orient de France et que chercheuse. C'était surtout comme chercheuse, mais du coup, aussi en tant que sœur, j'ai été invitée à une table ronde avec donc des officiels, un grand maître, etc. Donc, c'était quand même, bon, il y a un progrès. Hein. Je n'ai pas été admise dans la tenue, naturellement, mais quand même, lors d'une manifestation publique, on me reconnaissait comme sœur, alors qu'avant, ce n'était pas pensable. Donc là, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'évolution. Alors, non, je crois que ce qui serait intéressant de voir, c'est l'évolution et les résistances. Pourquoi toutes ces résistances? Pourquoi toutes ces résistances aujourd'hui? Alors, on a même inventé un mot qui n'est pas très beau, les masculinistes. Les masculinistes sont ceux qui ne veulent pas entendre parler de sœurs dans leur loge. Et je crois qu'il y a exactement la même attitude, pour le coup, entre les masculinistes français et les masculinistes américains. Si on étudie les choses de près, il y a eu une enquête très bien faite par un sociologue, Scott Kenney, sur donc le Canada, et le Canada en particulier. Enfin, bon, c'est la même chose qu'aux États-Unis. Et vraiment, on trouve les mêmes motivations. Lesquelles? Alors, d'abord, une motivation, on va dire, enfin, d'abord un argument traditionnaliste. C'est-à-dire que, regardez, Anderson le dit bien, c'était quand même 1723, hein, et un autre contexte quand même. Mais Anderson le dit bien, donc il n'est pas question d'avoir des femmes, point. C'est la tradition. Voilà, on s'arrête là. Deuxième argument, il est commode, si vous voulez, il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Deuxième argument, je dirais psychologique. Ah, mais écoutez, non, vraiment, les loges maçonniques, c'est le seul espace où on peut se retrouver entre hommes. C'est ce que disent les Canadiens, c'est ce que disent aussi certains Français. un peu partout, hein. Même au Grand Orient, parfois, on entend ce genre d'arguments. Et ça me fait penser un petit peu à une citation, vous savez, de l'Académie française. Alors, c'était lorsque l'Académie française, lorsqu'il a été question en 1970 d'élire une femme à l'Académie, Jean Dutour disait, je cite, « Mais quelle rage ont donc les femmes de vouloir se fourrer partout où sont les hommes ?» Les Vespasiennes disparaissant une à une, il ne nous restera bientôt plus le moindre domaine réservé. Il faut que les hommes aient quelques refuges. Il n'est pas bon pour leur santé et leur équilibre de passer tout leur temps avec les femmes. Voilà, bon, je caricature un peu. Mais ce Canadien a expliqué, par exemple, que, eh bien, il ne voulait pas que des sœurs le voient pleurer en loge lorsqu'il avait perdu un ami cher. Bon, un frère cher. On peut comprendre, mais je veux dire, bon, voilà, est-ce qu'il y a une honte particulière de la part d'un homme à montrer ses émotions plutôt que de la part d'une femme? Tout ça, ça va évoluer, puisqu'il y a quand même d'autres milieux. Dans les milieux professionnels, on peut être confronté à ce genre de choses, dans les milieux associatifs aussi. Donc, pourquoi? Voilà, pourquoi? Bon, en fait. Donc, ça, c'est. Et alors, je dirais le. Voilà, ce sont essentiellement donc ces arguments avec, donc pour récapituler, traditionnaliste, je dirais, psychologique, et puis le dernier bastion contre vraiment la modernité. Voilà, rester entre hommes. Alors, il y a aussi des oppositions à la mixité de la part de certaines féministes, c'est vrai. Parce que certaines femmes estiment qu'elles travaillent mieux entre elles, que la parole circule mieux dans des lieux exclusivement féminins que dans des lieux mixtes. Alors là, bon, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je comprends mieux la position des femmes, parce que les femmes ont quand même été très longtemps exclues. Elles ont été très longtemps exclues, il a fallu qu'elles se battent pour être reconnues. Donc ce n'est pas si facile que ça. Et c'est vrai que c'est un apprentissage. Voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas toujours envoyer dos à dos les masculinistes et les féministes dans cette réticence, disons, à travailler côte à côte. Voilà. Bon, alors quant au Grand Orient de France, eh ben, tu l'as bien rappelé, ça a quand même été, ça n'a pas été une mince affaire en 2010. Et je crois que tu as vécu tout ça, donc tu pourras bien sûr nous en parler. Alors c'est ce que j'explique, bon, j'essaye de raconter un petit peu en détail ce qui s'est passé à l'aide d'archives que j'ai eues, que certains frères ont bien voulu me donner d'ailleurs, et où on montre que, en fait, il y a eu quand même des loges qui ont été pionnières, il faut bien le dire. D'abord, dans les années 97, il y avait même une loge à Grenoble, la loge Joachim Delgado, qui avait initié une sœur. Et là, c'était trop tôt. Elle a été radiée. Bon. Ensuite, il y a eu les cinq loges. Hein, Combat, la loge d'Auch, pas que des loges parisiennes, donc une loge à Auch aussi, qui ont demandé, alors qui ont tout fait dans les règles, là, et qui ont demandé à initier des sœurs. Et donc, il y a eu peut-être une bataille juridique, on va dire, mais qui a été gagnée, parce que tout a été fait dans les règles. Il suffisait de montrer que ces sœurs n'avaient jamais figuré, enfin, c'est profane, n'avait jamais figuré au fichier des refusés. Alors, c'est amusant, bien sûr, mais dans la mesure où elle n'avait pas été figurée au fichier des refusés, et dans la mesure où elles ont obtenu l'accord à l'époque du Conseil de l'Ordre, quand même, ou plutôt du grand maître, hein, c'était Arcisé à l'époque.
Non, Quillardet.
Il était Quillardet, et il y avait Arcisé qui était.
Un secrétaire.
Voilà. Eh bien, tous les deux ont quand même joué un rôle à l'époque, hein, parce qu'ils ont quand même donné une réponse positive. Ça a été toute une bataille, je dois dire. Et ça, c'est pas rien. Alors, évidemment, on va nous dire, oui, mais quand même, le Grand Orient de France ne se dit toujours pas mixte. C'est vrai. Donc, j'espère que ça va venir, petit à petit.
J'ai pas employé ce mot-là, d'ailleurs.
Je remarquer. Sais. Parce qu'il refuse, pour l'instant, de se dire une obédience mixte. Pourquoi ? Pour ne pas effaroucher, bien sûr, certains frères, on le comprend.
Non, mais, c'est pas,
mais bon, je crois que tout ça va évoluer petit à petit, hein, parce que dans la réalité, bien sûr. Alors, arrêtez, il faut être prudent quand même, hein, parce qu'il y a à peu près 3000 sœurs, je crois, aujourd'hui, au Grand Orient de France, sur 55 000 à peu près maçons. Il y a encore des progrès à faire. Mais la répartition est quand même assez bonne, parce que ce sont 3000 sœurs, d'après ce que je sais, dans 500 loges. Donc c'est pas mal quand même, sachant qu'il y a combien, 1300 loges à peu près en tout, Hein, 1300, 1400. Bon, voilà. Il y a quand même 500 loges qui ont fait le pas. C'est bien. Bon, à Bordeaux, il y a déjà 5 loges mixtes du Grand Orient de France.
6 demain.
6 demain. Parfait.
Ou après-demain.
Parfait. Après-demain. À Périgueux, je crois qu'il y a 4 loges et 3 des 4 loges sont mixtes. Voilà. Donc, bon, les choses évoluent. Donc, je crois qu'il y a... Bon, il y a de réelles avancées, mais à des rythmes très, très différents. Ce qu'on peut dire, quand même, c'est que les obédiences mixtes prônent toute la liberté de conscience. Par contre, toutes les obédiences libérales qui prônent la liberté de conscience ne sont pas mixtes. Bon, c'est le cas de la Belgique, notamment, où on ne trouve pas plus laïque que les frères du Grand Orient de Belgique, et qui pourtant résistent très fort à la mixité. C'est le cas, bien sûr, de la Grande Loge de France. Et pourtant, la Grande Loge de France est évidemment laïque.
Bon. La GLFF aussi.
Voilà, la GLFF, qui est laïque, mais qui...
Qui n'est pas mixte.
Voilà, bon. Alors, mais cependant, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que aucune des obédiences qui imposent la croyance en Dieu n'accepte les sœurs. Donc il y a quand même un lien intrinsèque entre mixité et laïcité, qu'on le veuille ou non. Ou au moins entre admission des femmes et laïcité. Je crois que ça, c'est clair. Donc, ben, comme tu l'as dit, comme la longue marche de l'armée populaire chinoise, hein, en 1939-45, les femmes ont dû cheminer avec patience. Et alors, dans mon livre, qui était écrit avant une certaine époque, j'avais dit qu'elles étaient en marche. Alors maintenant, évidemment, j'ai du mal à filer la métaphore. Mais je vais dire que, voilà, elles imitent l'armée populaire chinoise.
Très bien.
Voilà. Mais je pense que la reconnaissance des sœurs est inéluctable. Enfin, je crois que, et c'est à ce prix que perdurera la franc-maçonnerie en acceptant la modernité, donc l'égalité des genres.
C'est-à-dire, ben, je te remercie pour cette deuxième partie, donc, qui est la partie qui est l'actualité donc, de la maçonnerie. Et où on constate donc qu'il y a effectivement ce qu'on appelle dans d'autres domaines une résistance au changement, mais cette résistance au changement, elle se surmonte parce que la démonstration qui est faite par les obédiences qui accueillent donc les sœurs et qui affilient les sœurs, qui initient les sœurs, elles progressent et elles sont progressistes aussi bien dans l'importance du recrutement que dans le progressisme dans les idées, quoi. Mm-hmm. Donc, je pense que petit à petit, tout ça devrait rentrer dans l'ordre et l'égalité et la parité des adhérents de femmes et d'hommes dans les obédiences qui, donc, initient les femmes sera au même niveau. Et un jour ou l'autre, je ne vois pas les loges qui ne reçoivent pas les sœurs aujourd'hui, par exemple. Je n'imagine pas que la grande loge, un jour ou l'autre, ne bascule dans le camp de l'invertu. Quoi. J'invente des mots comme impuissanté, je dis invertu, qui est le contraire de la vertu. Quoi. Donc, merci. Merci.